Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les plateformes Twitter, Facebook, Google et leurs puissants dirigeants sont-ils en passe de devenir les arbitres mondiaux de la liberté d'expression et du débat public ? De décider de ce qui incite à la violence ou pas, de ce qui est vrai ou faux, de censurer ou pas les comptes et les individus. C'est une des grandes questions que posent les événements récents à Washington. Enfin, ce n'est pas vraiment une question, mais une réflexion qui prend de l'ampleur, mais n'empêche pas les observateurs de constater avec soulagement, on espère, que pendant ce temps, Trump a cessé de déverser sa haine en ligne et de semer le chaos pendant les 10 derniers jours de sa présidence. Jusque-là, on estimait que les tribunaux étaient chargés de juger, selon les lois des gouvernements et leur constitution, de ce qui était légal ou pas, condamnable ou acceptable, dans les propos tenus en ligne. Dans les deux histoires que nous racontons aujourd'hui, qui mettent en scène des victimes de cyberharcèlement, c'est encore dans ce monde que nous sommes, celui dans lequel les victimes se tournent vers la justice pour faire valoir leurs droits. On précisera toutefois qu'un projet d'amendement défendu par le secrétaire d'État chargé de la transition numérique vise désormais à lutter contre la haine en ligne en tenant les plateformes elles-mêmes pour responsables des propos qui y sont tenus, comme on peut le lire sur le site de la chaîne parlementaire. Le matin même des émeutes au Capitole, Cédric O estimait devant les députés que les 10 réseaux devaient avoir des équipes de modération efficaces et transparentes, et qu'en cas de manque, de zèle ou d'efficacité, les géants seraient sanctionnés jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires. Cédric O n'a pas précisé si cette modération, que d'autres appelleraient censure, pourrait également concerner un président démocratiquement élu s'il incite à la violence. Tout de suite donc, cette parenthèse post-Capitole refermée, voici deux histoires de haine en ligne qui nous éclairent tout de même sur ce contexte. Elles sont racontées par Noémie Landreau.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je suis Julie Hainaut, je suis journaliste, j'ai 37 ans et j'habite à Lyon. Et il y a 3 ans, on m'a commandé un article sur un bar à Lyon. Je tenais une chronique culturelle sur des bars, des librairies, dans un journal local. Et donc, je rentre dans ce bar, je suis accompagnée, nous sommes deux. Il y avait personne, c'était avant le coup de feu. Donc, on s'assoit, je regarde la carte, on commande un cocktail. Et des tapas aussi. Et puis on boit le cocktail, qui était très bon d'ailleurs. Et donc je me présente, je dis que je suis Julie, je suis journaliste et je suis là pour faire un papier, éventuellement. Et donc je les interviewe sur pourquoi ce bar, pourquoi cette décoration, etc. Donc je leur dis que je les enregistre, je leur demande leur accord, ils me le donnent. Et je les questionne en fait sur le bar. C'est là qu'ils commencent à me parler de l'époque coloniale, qui était une période où il y avait une période accueillante, je les cite, une période sympathique où il y avait, on savait accueillir les gens. Je crois que c'est une blague au départ. Et à ce moment-là, je leur demande, et la partie esclave, vous en faites quoi de la colonisation Et là, tout simplement, ils me disent, on a mis des photos dans les toilettes. Ok, très bien. Je suis allée dans les toilettes. Effectivement, il y avait les photos d'esclaves, des photos qui ont été enlevées par la suite. Je suis choquée, je suis indignée, je le cache pas. En plus, tout est enregistré évidemment sur bande son avec leur consentement. Donc je leur fais répéter, je leur dis que je suis là et que c'est quand même un peu inquiétant de dire ça, et d'autant plus devant une journaliste qui va retranscrire ça. Donc j'essaye de leur donner une petite chance et ils confirment en fait tout le sérieux de leurs propos. J'en ai parlé à mon rédacteur en chef en lui racontant ce qui s'était passé et évidemment on s'est dit on écrit l'article, bien sûr. La parution de l'article, ça a été un vrai tollé sur les réseaux sociaux. Il y a eu évidemment des indignations, les mêmes indignations que moi j'ai eues le jour même, et il y a eu évidemment des trolls qui ont un avis évidemment sur tout et qui sont là pour pourrir le débat. Mais ça, c'est sans les minimiser, les trolls. Il suffit de pas leur répondre et puis ils s'arrêtent à un moment, ils trouvent un autre sujet, une autre cible et voilà. Ce qui s'est passé ensuite, c'était 3-4 jours après, il me semble. Ça s'emballait toujours sur les réseaux sociaux et puis un matin, je reçois une notification sur Instagram d'un faux profil qui me dit « Tu as été humilié sur ce site » avec le lien du site. Donc je clique évidemment et là je tombe sur un article horrible avec des photos de moi. Le titre s'intitule « Lyon, une pute à nègre veut détruire un bar colonialiste, mobilisation ». Et donc là, c'est l'horreur. J'ai vraiment l'impression d'être dans un film parce que c'est des insultes, putain nègre, serpillère à foutre africain, hyène terroriste. C'est des menaces de mort, des menaces de viol, des photos de moi volées avec un petit Rwandais dans les bras quand j'étais au Rwanda, des vidéos d'Hitler et de Goebbels, des photos d'esclaves noirs enchaînés. Et ils appellent au harcèlement et à ce que je sois violée et qu'on me tue, en fait. Donc le site s'appelle Démocratie Participative, c'est un site qui est clairement le site le plus raciste, sexiste, homophobe et tout ce qui va avec de la fachosphère. En tout cas, il se déclare ainsi et c'est un site donc néo-nazi. Et donc là, je réfléchis pas 2 secondes, j'enfile un jean et je vais au commissariat le plus proche et je dépose plainte, une première plainte. Et le temps de revenir, il y a un deuxième article, j'ai plus le titre en tête mais c'est du même acabit, donc je repars déposer plainte et dans le week-end il y aura un troisième article et également des mails où on recherche mon adresse, du coup mon adresse a circulé donc les harceleurs connaissent mon adresse mail est physique. Et ensuite, ça s'est traduit par un flot de messages, un flux ininterrompu de messages sur Twitter, sur Instagram, par mail, d'insultes, de menaces de mort, toujours des caractères très sexuels, tout le temps, tout le temps. Il m'est arrivé de descendre et de voir quelqu'un qui attendait. Alors je l'ai pris en photo, il était face à moi en fait, et il a rien dit. Enfin, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher me demanderait « Mais pourquoi vous prenez en photo ?» Et c'est arrivé aussi la nuit qu'on sonne chez moi. Peut-être c'est une erreur, sauf qu'à 3h du matin, ça fait peur en fait. Ça fait très peur. Quand j'avertis la police, on me dit « Ben non, en fait, tant que vous n'êtes pas frappé, tant que physiquement il ne se passe rien, on ne peut rien faire. » Et ça ne contribue pas à la réparation. Tout autant que le silence de plein de gens, le silence du rédacteur en chef pendant 3 ans, le non-soutien, ça impacte tout autant que le cyberharcèlement lui-même. Et c'est très grave et il y a une responsabilité de la part de ces personnes-là. Le cyberharcèlement, c'est compliqué à le faire entendre et à le faire comprendre parce que c'est tellement pas palpable. Et pour beaucoup de gens, en fait, tout ce qui est invisible n'existe pas. Et c'est vrai que si j'avais reçu des coups à chaque fois qu'on m'avait insulté, à chaque fois qu'on m'avait menacé, peut-être qu'on m'aurait pris plus au sérieux. C'est quelque chose qui se loge dans toutes les parties du corps, dans tous les pores de la peau. Et ouais, c'est quelque chose qui est toujours là, en fait. Je peux être dans la rue en état d'hypervigilance, en état d'alerte. Il suffit qu'un dixième de seconde je sois ailleurs, je lâche prise, parce que nerveusement c'est compliqué. Donc je lâche prise, il suffit qu'à ce moment-là il y ait une voiture qui déboule d'un coup ou quelqu'un qui crie. Et ben je suis tétanisée, je me remets dans le trauma en fait, donc je suis figée. Alors ça se voit pas, les gens le voient pas forcément, mais moi je me remets dans ce trauma qui me fige en fait. Et ça a des conséquences sur ma santé physique, ma santé psychique, ma santé mentale. Et j'ai peur évidemment d'être frappée, d'être violée, etc. Mais je crois que j'ai encore plus peur de ce nuage qui est au-dessus de moi et qui est toujours là, de cette intrusion dans la vie privée, dans la vie intime. Il y a eu plein de répercussions sur ma vie professionnelle et notamment j'ai arrêté de donner des cours à la fac. Ça fait 3 ans que je n'en donne plus. Ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la vague de cyberharcèlement, la première vague, Je donnais des cours à la fac et j'ai demandé des reportages à mes étudiants et il y en a un qui m'a proposé un reportage sur les néo-nazis. Et j'ai eu peur en fait, donc effectivement j'ai dit bien sûr que non, trouver un autre sujet, beaucoup plus léger, beaucoup plus sympa. Et là je me suis dit non en fait, je vais arrêter. Donc j'ai continué l'année scolaire parce que j'étais engagée et après j'ai arrêté les 3 années d'après. En fait quand on est journaliste, les réseaux sociaux jouent un rôle de promotion. Enfin, on a besoin d'être visible, on a besoin de partager ses articles quand on est journaliste indépendante. Et le fait de potentiellement être insultée, menacée, ça me freine en tout cas dans l'utilisation des réseaux sociaux. Donc j'ai disparu de l'espace public, j'ai disparu de la rue, je me suis beaucoup isolée des gens que je fréquentais avant. Il y a vraiment un avant et un après. La vie n'est pas la même. J'ai pas envie de parler de ma vie privée parce que j'ai pas envie que ces gens qui me harcèlent sache si je suis en couple, si j'ai des enfants, si je suis mariée, si... Et je veux pas en parler. Donc j'ai déposé au départ en fait 5 plaintes. Les policiers, enfin l'enquête aboutit sur une personne qui habite pas très loin de Lyon et qui fait partie des harceleurs qui ont contribué à la vague de harcèlement. Et il a partagé, il a relayé un article, le premier article, qui m'insulte et qui me menace de mort et de viol. Et il a été traduit devant la justice pour ça, en fait. Et cette personne fait appel, change d'avocat, prend l'avocat d'Alain Soral et de Dieudonné. Et le procès a eu lieu fin novembre et le verdict tombera demain. Et l'audience, là, en appel, a duré 2 heures environ, un peu plus de 2 heures. Et ça a été une audience assez absurde, pleine de haine, pleine de... Ouais, je crois que ce qui caractérise cette personne, c'est la haine. Aucune émotion, aucune empathie. J'ai été soulagée de le voir. Je trouve que c'est important de voir les gens, de nommer les choses. J'ai été soulagée de parler aussi. Donc demain c'est le verdict, j'espère qu'il y aura une confirmation du jugement de première instance. Ouais. Et j'ai hâte en fait de connaître ce délibéré et de savoir ce qui va se passer par la suite. Parce que ça va peut-être clore quand même une partie de ma vie en fait et que je puisse faire un pas de côté par rapport à ça, même si je suis consciente que le cyberharcèlement va continuer. C'est un peu symbolique en me disant bon bah voilà, ça c'est fait. Même s'il y a une suite plus tard. Au moins, c'est quelque chose qui est fait et je peux avancer, je peux faire d'autres choses et je peux continuer à me battre aussi pour cette cause d'une autre manière.
Je m'appelle Marion, j'ai 30 ans, je suis comédienne, scénariste et créatrice de contenu plus largement. Ça faisait déjà quelques années que je postais des vidéos sur le féminisme sur Internet pour essayer de faire se questionner les jeunes filles et les jeunes garçons. Donc en 2016, j'ai sorti une vidéo en mai sur le harcèlement de rue pour surtout rompre avec ce qu'on appelle le victim blaming, c'est-à-dire le fait de systématiquement blâmer les victimes de s'être fait emmerder ou parce qu'elles étaient habillées d'une certaine manière ou parce que en fait leur agresseur il était pas si méchant ou parce qu'elles n'avaient pas à être dehors à une certaine heure. Je poste cette vidéo en mai et en juin commence mon cyberharcèlement alors qu'en juillet il y avait les Jeux Olympiques. Et moi j'étais persuadée que les gens ils auraient des choses mieux à faire pendant les Jeux Olympiques, mais apparemment me harceler était devenu un sport beaucoup plus intéressant. Ça a commencé pas très doucement, ça a été directement très virulent au niveau des réactions. C'est-à-dire que dès le moment où j'ai posté la vidéo, j'ai eu énormément de commentaires d'hommes. Je vais pas essayer d'enrober la vérité. Il devait y avoir en tout, sur les 2 ans où j'ai été harcelée, peut-être 4 femmes en tout. Et encore, c'était des femmes qui discutaient, pas qui me menaçaient. J'ai donc directement reçu des messages très virulents de personnes, d'hommes qui me disaient que j'étais pas normale et que j'étais extrémiste et que si on pouvait plus draguer dans la rue, et ben on n'avait qu'à plus parler et qu'en fait j'étais le cancer du monde et j'étais le problème. En général, le commentaire qui revenait le plus, c'était « si je te croise, je te viole » ou « il faudrait mieux que tu te tues ». Voilà, avec des sales putes, toujours des salopes, toujours des choses assez insultantes et assez redondantes. Il y a un youtubeur, si je peux l'appeler comme ça, dont en général j'ai toujours tu le nom parce que j'ai pas envie qu'on puisse pendant 2 secondes aller le chercher ou aller savoir ce qu'il fait. J'ai pas envie de lui donner cette place-là, mais il était à ce moment-là assez influent dans le forum jeuxvideo.com. Qui lui a appelé sa communauté à venir me harceler pour me faire taire, puisque c'était ça le but. Donc à 6 mois du début de mon harcèlement, j'avais déjà dénombré 40 000 menaces de mort, de viol et insultes, choses qui sont censées être illégales. Je suis devenue une figure à abattre. J'ai eu, sous tout ce que je postais en ligne, c'est-à-dire que ma vidéo était postée sur YouTube, donc sous ma vidéo, dans les commentaires, il y avait énormément de menaces et d'insultes, mais il y avait aussi tout mon compte Instagram, quel que soit le contenu que je postais, il y avait aussi tout ce que je postais qui n'avait rien de politique, sur Facebook, dans mes messages privés, quelle que soit la plateforme, sur Twitter énormément. Il y avait des vrais raids organisés, comme aurait fait un groupe terroriste. C'est resté sur Internet un temps et puis ça a commencé à prendre de l'ampleur puisque j'ai finalement gagné une notoriété, mais pas dans le bon côté de la force, plutôt du mauvais côté de la force. Ça s'est déporté un peu partout. J'ai eu une lettre dans ma boîte aux lettres de menaces que j'ai vite fait d'oublier aussi. Donc c'était un calvaire tous les jours. Je pouvais plus trop sortir de chez moi sans avoir en tout cas peur à partir du moment où ça s'est transféré dans la vie et où je me suis rendu compte que ces gens derrière leurs ordinateurs, c'était quand même des vrais humains et que je me suis fait alpaguer dans la rue quelques fois. J'avais peur des endroits publics. J'avais peur qu'il m'arrive un truc. J'avais peur de... Parce que ça m'était déjà arrivé quand je passais à côté d'un groupe de jeunes hommes, d'entendre des insultes sur mon passage... C'était jamais des personnes particulièrement courageuses, j'ai jamais eu à en venir aux mains ou quoi que ce soit, puis surtout que moi ça me mettait dans un état de panique et de peur, j'étais pas prête à me battre avec quiconque. Et c'est très bizarre d'un coup de se sentir haï, une sorte de conscience d'un coup qu'il existe des gens sur cette terre qui veulent qu'on meure. Et puis comme personne n'avait vécu ça avant moi, dans mon entourage, j'avais l'impression d'être la première à vivre ça et c'est très violent en plus quand c'est sur Internet, quand c'est digital, puisque... 98% des humains de mon entourage m'ont dit que j'avais jusqu'à pas y penser. Mes parents et grands-parents, toute cette génération qui n'a pas connu le digital et qui le regarde du coin de l'œil, n'avaient absolument pas les ressources pour comprendre ce qui m'arrivait, donc j'évitais d'en parler au maximum. Les personnes de mon âge, mon entourage, personne n'était en mesure de me réconforter pendant ce truc-là, mais tout le monde avait une bonne astuce pour moi, qui était toujours une astuce nulle. Donc couper les réseaux, m'excuser en ligne, ne pas y penser, les ignorer, je ne sais quoi. Et ça, c'est vraiment une des plus belles bêtises du monde, c'est d'oser penser à notre époque où le digital prend une place énorme dans nos vies, que c'est pas la vraie vie. Sauf que c'était la vraie vie, c'était ma vraie vie, et tout était vrai de ce que j'ai reçu et de ce que j'ai lu. Donc moi j'étais vraiment blessée, et j'étais obligée de justifier ma peine et ma panique aux gens qui m'entouraient, qui essayaient de me conseiller juste de penser à autre chose ou de fermer Internet. Soit exactement ce que je dénonçais dans ma vidéo, c'est que ça n'est pas à la victime de changer son comportement. J'ai le droit d'être sur Internet, c'est un endroit libre. Je vais pas ne pas sortir à 23h parce qu'à 23h j'ai plus de risques de me faire emmerder. C'était exactement ce que j'essayais de dénoncer. Et en fait, on a reproduit encore et encore le même schéma où, ben, en fait, s'il y avait un problème dans un endroit, il suffisait que je quitte l'endroit. Puis le problème, c'est que même en quittant Internet, les insultes, elles s'arrêtent pas. Là, je peux en parler parce que j'ai du recul, parce que je me souviens de ce qui s'est passé et que je me suis re-raconté l'histoire. Mais sur le coup, j'étais absolument pas consciente que j'étais en détresse. Je continuais à produire du contenu, à écrire des choses. Et ça m'a pas aidée. Je pense que j'aurais peut-être eu besoin de me poser un petit peu et de m'éloigner, mais j'avais peur en m'éloignant de jamais avoir la force de revenir et de trouver ce monde trop brutal et trop violent. Et je pense aussi qu'il y a un truc, j'avais pas envie de partir en fait. J'ai jamais eu envie de partir. Je me sentais virée d'un endroit où j'avais pas du tout envie de déguerpir. C'était chez moi, c'était ce que j'avais choisi de faire dans ma vie. Donc j'avais pas envie de partir, j'avais pas envie de leur céder ça. Et ça m'a pas quittée. Je me suis renseignée pour aller porter plainte, le problème étant que moi j'étais harcelée par des dizaines de milliers de personnes. Donc c'était peine perdue. J'avais pas envie de choisir 5 personnes au hasard parce que je trouvais ça injuste. Moi je voulais que tous y payent, je voulais que tous soient punis d'une manière ou d'une autre. Et surtout, ça c'était très très coûteux financièrement. C'était une époque où les captures d'écran ne faisaient pas foi devant la justice, donc il fallait embaucher un huissier qui allait faire exactement comme quand on fait un constat avec une voiture, c'est-à-dire je me connecte à telle heure sur tel réseau social, je tape tel mot-clé et je constate tant de messages. Mais le problème, c'est que c'était des mecs qui avaient très bien pu me harceler, retirer leurs messages, les remettre. Le youtubeur qui a lancé mon cyberharcèlement, lui, il avait supprimé tous ces messages, toutes ces incitations à la haine. Donc c'était déjà pratique pour lui, il n'y avait plus d'incitation à la haine. Puis il fallait aussi réussir à rentrer en contact avec les réseaux sociaux qui, pour la plupart, ont des systèmes américains, pour les forcer à nous donner l'identité des gens. Parce que j'étais insultée par des pseudonymes, j'étais pas insultée par des gens qui écrivaient leur nom et leur nom de famille. Ils mettaient pas leur adresse, ils me disaient pas si tu veux discuter, viens. C'était uniquement des pseudonymes. Donc c'était une démarche tellement énorme, tellement coûteuse et tellement, à mon avis, angoissante, que j'étais pas prête à le faire. Il y avait encore aucun autre outil à ma disposition. Professionnellement, ça m'a coupé de beaucoup, beaucoup de contrats. Énormément de contrats, puisque j'ai travaillé avec des marques ou avec des diffuseurs qui n'avaient pas très envie d'être mêlés à cette affaire. Puisque mon apparition dans n'importe quoi était sujet à harcèlement. J'allais faire un live sur une chaîne de jeux vidéo, j'allais me faire harceler. J'allais faire une reprise au ukulélé de Taylor Swift, j'allais me faire harceler. Donc énormément de marques et de diffuseurs ont arrêté de travailler avec moi. Mes collègues, les gens avec qui j'avais commencé sur Internet, avaient tendance à voir ça comme si j'avais la lèpre. C'est-à-dire qu'on sait pas trop comment ça se passe, on sait pas si ça se passe dans l'air ou si c'est contagieux en se touchant, mais du coup ils m'évitaient énormément. Et puis ils voulaient pas se montrer avec moi. Parce qu'il y a eu ça aussi comme gros souci, c'est que les commentaires négatifs que j'ai toujours eu l'habitude de recevoir dans ma carrière de femme et de femme féministe sur Internet, ils étaient souvent noyés dans la masse de commentaires très gentils et très bienveillants que je pouvais recevoir aussi. Sauf que là, c'était tellement effrayant pour tout le monde que la communauté de base qui me soutenait et qui me communiquait l'appréciation de mon travail quotidiennement avait aussi disparu. Donc je me suis retrouvée seule face à uniquement de la haine, parce que plus personne ne voulait prendre la parole pour me soutenir. Plus du tout. Plus toutes ces jeunes filles que j'avais éveillées au féminisme, plus toutes ces personnes que j'avais fait rire sur Internet, ils avaient disparu. Parce que je pense qu'à leurs yeux, c'était devenu aussi très dangereux pour eux de me soutenir. Donc comment ça se fait que moi, pendant plus de 2 ans, j'ai uniquement reçu dans le visage des menaces et des insultes? C'était parce qu'en fait, il y avait plein de gens qui se taisaient. Il y avait des jours où j'avais envie de tout arrêter et de disparaître, et des jours où ça me donnait de la force et je me disais, il y a un problème et il faut le changer. C'est-à-dire que tous ces commentaires ne faisaient que me confirmer qu'il fallait absolument qu'on change les mentalités des gens et qu'on change les mentalités des garçons, parce que c'était pas possible toute cette violence lâche en plus. Dans la rue, en tant que femme, moi je suis née à Paris, j'ai subi ma première agression sexuelle à 8 ans. Je me suis fait suivre dans le hall de mon immeuble par un vieux monsieur qui m'a demandé de le regarder pendant qu'il se masturbait. Et j'avais bloqué l'ascenseur avec mon pied, donc quelqu'un a dû descendre à pied et ça lui a fait peur et il est parti. Mais je me souviens que j'étais pétrifiée. Ça s'oublie pas, ce genre de choses. Mais il y a plein de petites bricoles qu'on oublie, des habitudes qu'avaient les garçons à l'école primaire ou au collège, jusqu'à les moments où, pour rire, entre guillemets, on s'est fait coincer dans un couloir. Et tout ça, ça revient à chaque fois par vagues, parce que moi, j'ai essayé d'oublier comme tout le monde, et surtout parce qu'on m'a jamais dit que c'était grave. Si encore, j'étais vraiment un cas isolé de femme qui avait vraiment pas eu de chance. Le problème, c'est que je suis même pas la seule. J'ai hâte que la nouvelle génération ne connaisse pas ça, vraiment. Mais pour ça, il faut malheureusement éduquer la génération qui est en place, toutes les générations en place aujourd'hui, parce que ça va pas juste magiquement disparaître. Aujourd'hui, je continue à poster des vidéos sur Internet très régulièrement et à recevoir des messages virulents. Évidemment, c'est beaucoup plus rare que ce que j'ai vécu pendant les 2 années où ça a duré. Mais j'ai toujours, de temps en temps, des petits messages. Sauf que maintenant, ma démarche, elle est que je me sens tellement en pouvoir que je leur réponds. Et en général, ils se taisent. Ils se taisent, mais au moins, ils savent. Ils savent que je suis là et que je les vois. Et ça, ça change absolument toute la donne. Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai la confiance de pouvoir le faire. Parce qu'après tous ces messages de haine, j'ai plus peur de personne. Et je sais très bien qu'en termes d'argumentaire, en face de ces gens-là, bah, ils font pas le poids, quoi. C'est pareil, je me disais pas tous les jours « Waouh, qu'est-ce que je suis courageuse !» Par contre, en sortant de ça, je me suis dit « Mon Dieu, mais où j'ai trouvé tout ce courage ?» Et c'est le genre d'expérience qui te fait te dire « Mais y a rien qui va pouvoir me mettre à terre !» Je sais pas, sur la terre, qu'est-ce qui va pouvoir me détruire. Parce que là, j'ai vécu ça, je suis sortie de ça, et j'ai gardé la même implication. J'ai gardé la même volonté, et j'en ai eu même 2 fois plus. Donc, allez-y, amenez les obstacles, qu'on rigole.
C'était La Haine en ligne, un reportage de Noémie Landreau réalisé par Yaël Mandelbaum. Merci à Julie Hainaut, Marion Séclin et Simon Piel. Sachez que contre toute attente, Julie a perdu son procès en appel et que son harceleur a été relaxé pour vice de procédure. Notre attachée de production, c'est Mélissa Foust et notre stagiaire, c'est François Bréus. The devil.